ensemble entre frères et sœurs, en ta présence, sous ton regard, tourner les yeux vers toi, Seigneur. Il est bon que tu nous rappelles les vérités de ta parole, les vérités de ton évangile. Nous sommes tellement distraits, nous sommes tellement attirés par les lumières, les faux plaisirs de ce monde, les tracas de la vie quotidienne que nous oublions des fois de tourner les yeux, de tourner nos cœurs vers toi. Et ce matin, Seigneur, c'est une joie que de pouvoir ensemble ouvrir ta parole qui est la vérité, ta parole sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie, Seigneur, ta parole qui nous apprend qui tu es, qui nous montre comment tu agis. Seigneur, tu es à même de nous remplir de joie, de paix, d'abondance en espérance. Tu nous donnes une perspective éternelle sur les choses et Seigneur, nous voulons te demander ce matin d'ouvrir nos cœurs. Que ta parole puisse nous toucher, non seulement intellectuellement, émotionnellement, Seigneur, mais qu'elle se traduise, ce changement, cet effet se traduise par des comportements, des attitudes nouvelles, des changements concrets que les autres pourront apprécier, Seigneur, et que nous-mêmes nous pourrons apprécier, Seigneur. Ta parole, tu l'as envoyée pour qu'elle ne retourne pas sans effet, Seigneur, et nous avons foi que c'est le cas. Semaine après semaine, Seigneur, tu nous instruis, tu nous reprends, tu nous corriges, tu nous équipes pour le ministère, pour l'œuvre que tu as à nous donner, Seigneur, que tu veux nous donner. Tu veux faire tant de choses, Seigneur, et souvent ce sont seulement notre incrédulité, notre apathie, notre manque d'engagement, Seigneur, qui retiennent l'œuvre que tu veux faire en nous, parmi nous et dans la communauté qui nous entoure, Seigneur. Nous voulons te remettre cette ville de Nice, ce pays de France. Tu vois combien nous sommes peu à t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous prions que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Seigneur, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui se réunissent aujourd'hui, qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons encourager aussi, que tu encourages, Seigneur, Mike et Becky et leur réunion cet après-midi. Suscite d'autres ministères, Seigneur, bénis en abondance, comme tu le désires. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous approchons de la fin de l'épître de Paul aux Romains. J'aimerais que nous tournions ensemble dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15. À partir du verset 14. Si vous avez besoin de Bible, est-ce qu'il y en a encore ? Non ? Tout le monde en a ? Voilà. Si quelques personnes ont besoin de traduction en anglais, vous pouvez peut-être voir avec Ellie, qui va traduire, je crois, pour Esther. Oui, ok. Vous n'avez pas besoin d'aide? C'est bon. Sinon, Eliane pourrait s'en charger. Très bien. Nous avons vu la semaine dernière, c'est presque la conclusion de l'épître de Paul aux Romains. Paul, vous vous souvenez, écrit à cette église de Rome, dans la capitale de l'Empire, la ville la plus fière du monde de l'époque, et c'est une église qu'il n'avait pas implantée lui-même, mais il avait des très proches amis, on le verra au chapitre 16, qui travaillaient dans cette église, et une des caractéristiques de la vie chrétienne, c'est que, une fois qu'on entre dans la famille, on a de la famille de partout, une famille internationale. On a avec nous Esther qui vient de Budapest, François lui vient de l'église, une des grandes églises Calvary aux États-Unis qui compte 15 000 ou 20 000 personnes, je ne sais plus combien il y a maintenant. Alors bien sûr, ils ne se réunissent pas tous dans une petite salle, mais ils ont plusieurs réunions dans la semaine, ils ont plusieurs services le dimanche, le samedi. Mais nous sommes tous de la même famille. Et là, Paul aussi, il a à cœur d'encourager ses frères qui sont loin, qui sont à Rome. Et il veut leur donner des bases dans la foi. Et c'est tout l'épître de Paul aux Romains. C'était pour bien établir la foi, ce qu'est la foi chrétienne. Vous vous souvenez, au début, il leur a montré que tous, autant que nous sommes, tous les hommes, sommes des pécheurs. C'est-à-dire que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Et c'est aussi bien pour ceux qui se disent religieux, pour les juifs, pour les non-juifs, pour les païens, tous autant que nous sommes, laissés dans notre état naturel, nous sommes des pécheurs. Nous sommes égoïstes, nous voulons toujours la première place, nous voulons toujours la plus grosse part. Quand on croit qu'on est au-dessus de ça, il suffit de se retrouver autour d'un barbecue cet après-midi et on verra, il y a deux grosses saucisses, là, puis il y en a deux, trois petites qui sont un peu noircies. Instinctivement, on veut les meilleures. On a toujours soi-même en souci. On est toujours vraiment préoccupé par soi-même. Quand on a une photo de groupe, quelle est la première personne qu'on regarde? Moi. Pour voir si j'ai pas l'air trop moche. Si on m'a pas pris avec les yeux fermés, la bouche ouverte, l'air imbécile, si j'avais bien enlevé mes lunettes ou si je les avais gardées, elles sont pas belles, mais si je les enlève, je vois plus mes notes, alors c'est un peu gênant. Tous, autant que nous sommes des pécheurs. Et nous, ça nous fait sourire, on dit, bon, ben, on est tous humains, c'est pas bien grave. Mais en fait, ce manque de sainteté, c'est une caractéristique qui fait que nous sommes capables des pires choses. Nous sommes capables des pires crimes si notre vieille nature est laissée à elle-même. Et ça, c'est quelque chose que nous n'aimons pas admettre. C'est une des premières difficultés pour devenir chrétien, c'est de dire « je suis un vaurien ». En moi-même, je n'ai rien qui peut justifier l'amour de Dieu. Et Dieu, lui qui est parfait, il doit punir le péché. Le péché, c'est quelque chose qui est contraire à son essence, à sa nature, à son être profond. Le péché, il ne peut pas le tolérer, il ne peut pas s'en amuser, il ne peut pas l'excuser. Le péché, il doit le punir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, et ça, c'est la Bible qui nous l'annonce, c'est qu'il nous aime. Il est un Dieu d'amour, et il ne veut pas nous punir, il veut nous bénir. Et là, il a un dilemme entre les mains. Il a un dilemme sur les bras. D'un côté, il doit détruire le péché. De l'autre côté, il nous aime. Comment faire pour détruire le péché sans nous détruire? C'est là le miracle de la croix, l'essence du christianisme. C'est Dieu qui vient en la personne de Jésus-Christ recevoir la punition que méritent nos péchés. Il meurt à ma place pour payer la punition de mes péchés. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter, mais c'est ce qu'annonce la Bible, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Dieu est mort à ma place, en la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu punit le péché, mais il aime le pécheur. Et tous autant que nous sommes, chrétiens, non-chrétiens, bouddhistes, musulmans, islamistes, tout ce que vous voulez, tous les ismes que vous pouvez, athéistes, tous les ismes auxquels vous pouvez penser, il nous invite à mettre notre foi en ce qu'il a fait par Jésus-Christ. Il nous dit, il vous suffit simplement de croire à ce que j'ai fait, ce qui m'a tellement coûté, ce qui m'a coûté la chose la plus précieuse dans l'univers, dans l'histoire de l'univers, de l'éternité, j'ai donné mon Fils bien-aimé, pour vos péchés. Maintenant, si vous croyez en cet acte d'amour ultime, à ce moment-là, par la foi, vous allez être au bénéfice de mon amour. Je vous pardonne parce que quelqu'un d'autre a payé le prix. Et Paul, c'est cette passion de communiquer ce message qui l'anime. Et ce message que nous connaissons, que nous avons reçu, nous devrions être animés de la même passion pour le partager avec tous ceux qui nous entourent. La plupart des gens qui nous entourent, ils pensent que s'il y a un Dieu, beaucoup se disent qu'il n'y en a peut-être pas. Beaucoup ne se donnent même pas le temps de se soucier de savoir s'il y en a un, ils sont trop occupés. La vie est trop trépidante, il y a trop de soucis. Si ce Dieu existe, alors il va faire le coup de la balance. Le coup de la balance, c'est-à-dire qu'il va prendre mes bonnes actions d'un côté, il va prendre mes mauvaises actions de l'autre, et puis un peu comme au marché, là, en plein air à Nice, c'est un des avantages de vivre en France, on a encore des marchés en plein air, il va voir de quel côté penche la balance. Et si ça penche du bon côté, alors on est accepté au paradis, on n'est pas détruit, et ça c'est complètement faux. Rien ne peut nous permettre de mériter l'amour de Dieu. Nos meilleures actions, nos meilleurs actes de bienveillance envers les autres, nos plus grands sacrifices, si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes dans nos péchés, nous sommes perdus. Et Paul, il a une passion pour partager ce message. Paul, c'était quelqu'un qui avait un grand zèle, c'était un chef religieux, et lui, il était habité par l'Ancien Testament, il avait incorporé la culture de l'Ancien Testament, du judaïsme, qui consistait à croire que Dieu avait trouvé que le peuple juif était un peuple particulièrement doué, particulièrement spirituel, et que, en vertu de ses mérites propres, Dieu l'avait béni, en lui donnant la loi. La loi, c'est-à-dire les 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï, et toutes les lois qui s'y attachent. Et les Juifs pensaient qu'il suffisait de connaître ces lois, d'essayer de les vivre à la lettre, pour être assuré de vivre avec Dieu pour toujours. Ils étaient devenus ce qu'on appelle des légalistes, des pinailleurs. Il fallait, par exemple, ne pas travailler le dimanche pour le jour du sabbat, donc il fallait définir qu'est-ce que c'était que le mot travail. Est-ce que porter des boucles d'oreilles, c'était du travail ou pas? Et ils avaient décidé ainsi qu'on pouvait porter peut-être un milligramme d'épices, mais pas deux. Donc ils étaient là à voir qu'est-ce qu'ils respectaient ou pas, et en fait leur cœur était loin de Dieu. Ils avaient reçu la parole de Dieu et ils en faisaient un sujet d'orgueil national. Ils se disaient, nous, on est en contact avec Dieu parce qu'on est des gens bien, parce qu'on est des gens spirituels. Et en fait, Dieu leur avait donné cette loi pour qu'il soit une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et l'histoire du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, c'est qu'ils ont échoué dans cette mission. Et que Dieu a décidé de s'adresser maintenant, de se tourner vers les païens. Il n'a pas fini encore avec le peuple juif. Il a promis au peuple juif de le bénir, qu'il y aura un reste, un groupe de juifs qui seront vraiment des juifs, parce que le mot juif, ça veut dire adorer Dieu, et que ces gens-là, ils ont un plan de salut avec Dieu aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le plan de Dieu, après s'être occupé de la nation juive, Dieu, pour qui c'était toujours le plan, a décidé d'utiliser Paul, qui était un juif des juifs, un hébreu des hébreux, qui avait été élevé dans les plus grandes synagogues, qui avait été au contact des plus grands rabbins, le rabbin Gamaliel, il en est question dans le livre des Actes, pour justement oublier sa propre race et aller annoncer la bonne nouvelle aux païens. Et les païens, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas juifs. Nous, on imagine les païens comme des peuplades primitives dans des contrées où personne n'a jamais encore mis le pied, où les forêts sont tellement denses qu'on ne peut même pas faire de reconnaissance aérienne. Non, les païens, c'est moi, c'est vous, si vous n'êtes pas juifs. Et Dieu aime tous les hommes. et il veut que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Il n'est donné parmi les hommes, sous les cieux, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Il y a des grands hommes, il y a des hommes religieux, il y a eu d'autres religions, mais la Bible est formelle, et c'est pour ça qu'elle est souvent rejetée, c'est parce qu'elle ne tolère pas la tolérance en matière de vérité. Alors elle est taxée d'intolérance, mais ce n'est pas les chrétiens qui sont intolérants, c'est Jésus qui a dit « Je suis le seul chemin pour aller au Père. Nul ne vient au Père que par moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors peut-être ce n'est pas vrai, et à ce moment-là, c'est une légende, c'est un menteur, et nous n'avons aucune raison de nous retrouver ici le dimanche, soit c'est la vérité, et à ce moment-là, nous devons en tenir compte et changer notre vie en conséquence. Et Paul, lui qui était si farouchement anti-chrétien, il persécutait les chrétiens, il voulait étouffer cette religion naissante, il a été touché par Dieu sur le chemin de Damas. Lui qui allait justement à Damas pour persécuter, pour emprisonner, pour frapper, pour tuer des chrétiens, Dieu l'a fait tomber de cheval. Et des fois, c'est ce que Dieu doit nous faire avec nous. Des fois, nous sommes montés sur nos grands chevaux, nous avons nos profondes convictions, nous pensons que nous savons de quoi il s'agit, de quoi retourne la vie, l'éternité. Et des fois, Dieu doit nous mettre dans des conditions difficiles, doit nous faire tomber plus bas que terre, pour que nous réalisions que sans lui, nous ne pouvons rien, que sans lui, nous n'avons aucun espoir. Paul est tombé du chemin, c'est cette fameuse rencontre sur le chemin de Damas, où tombé de cheval, il a entendu la voix du Seigneur qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ?» Et c'est intéressant parce que c'était Jésus-Christ qui parlait, Paul persécutait des chrétiens, et lorsque Paul persécutait des chrétiens, il était en train en fait de persécuter Jésus-Christ. Paul, après avoir vu cette grande lumière, écouté cette voix que les autres n'avaient pas bien entendue, n'avaient pas reconnue comme la voix de Dieu, des écailles sont tombées sur ses yeux, et puis quelque temps après, avec la prière d'Ananias, un chrétien qui ne voulait surtout pas avoir affaire à l'apôtre Paul, parce qu'il était connu pour être un dangereux criminel pour les chrétiens, il est venu à lui, il a prié avec lui, les écailles sont tombées, et là, le Seigneur lui a dit, « Je vais lui montrer combien il va devoir souffrir pour me servir, et je vais le choisir pour être un instrument de choix. » On peut regarder, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 9. Et le Seigneur parlait à Ananias, qui faisait de la résistance. Page 143 dans la Bible, à la colombe à la fin, dans le Nouveau Testament. Le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations. » Les nations, c'était un autre nom pour désigner ceux qui n'étaient pas juifs. « Devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. » Donc, essentiellement d'abord devant les nations, aussi devant les juifs. « Mais je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a été tellement utilisé par Dieu. Le Nouveau Testament comporte 27 livres ou lettres, ou cartes postales, des petites lettres. Et en fait, sur cette lettre ou texte, il y en a 13, presque la moitié, qui ont été écrits par Paul. 13 ou 14, selon qu'on considère que la lettre aux Hébreux est une lettre écrite par Paul ou non. Paul a été un outil formidable entre les mains de Dieu. C'est formidable ce qu'un artisan qui s'y connaît peut faire avec de bons outils. On est toujours à la recherche de personnes qui savent bien bricoler dans l'Église, parce qu'il y a toujours du travail à faire, à finir, il y a des projets qu'on pourrait engager, des choses urgentes qui traînent depuis des mois, comme par exemple rallonger la sonnette pour qu'on puisse l'entendre au premier étage quand on est en réunion de prière. Mais on peut vous donner les outils, le même outil entre mes mains, ça va être mal fait. Si je le donne à Paul ou d'autres, ou des artisans que nous avons embauchés pour mettre un chauffage au mur, moi ça me prendra la matinée, eux ça leur prend 5 minutes, montre en main. Ce qui compte, et c'est le message d'aujourd'hui, c'est que Dieu veut que nous soyons des outils entre ses mains. Il veut que nous soyons disponibles. Et si nous nous mettons à son service, si nous lui disons « j'ai pas grand-chose à t'offrir, mais je m'offre tout entier à toi », alors attention à ce qu'il va pouvoir faire. Attention aux merveilles qu'il va pouvoir accomplir par votre vie, pour son royaume, pour faire du bien aux gens qui vous entourent. Nous vivons dans un monde où les gens souffrent. Nous-mêmes, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde qui a été touché par le péché, où la corruption règne. Combien de fois nous sommes indignés de voir les magouilles politiques, les crimes, les guerres, la violence, toutes ces œuvres qui viennent du mal, du malin, de l'ennemi, du diable. Nous avons quelqu'un qui nous veut du bien, nous l'avons expliqué, c'était le message de la semaine dernière, nous avons quelqu'un qui nous veut du bien, il s'appelle Dieu, par son Fils Jésus-Christ et son Saint-Esprit, il vient toucher nos vies, il vient transformer nos vies, il vient donner un sens, un espoir abondant, la joie, la paix, et à côté de ça nous avons un ennemi qui cherche en rugissant qui il va pouvoir manger tout cru. Et trop souvent nous nous laissons piéger par lui. Ces pièges sont pas bien malins, mais comme nous sommes pas très malins, la plupart du temps ils suffisent. Il nous promet la joie, il nous promet du bonheur en désobéissant à Dieu. Et ça, c'est toujours un mensonge. Il nous promet par exemple de trouver la joie dans des relations sexuelles en dehors du mariage, la joie en faisant des petits détournements financiers, la joie en trichant, la joie en cherchant à être soi-même le premier. Tout ça, ce sont des mensonges. Satan est le père du mensonge. Il veut nous tromper. Il n'a pas de plus grande joie que nous éloigner de Dieu. Souvent, il a beaucoup de puissance sur nous parce que, bien que nous soyons venus à Christ, bien que nous voulions le servir, nous péchons encore. Et ça, c'est la réalité. Tant que nous ne serons pas de l'autre côté de l'éternité, nous serons toujours amenés à pécher. Ça ne veut pas dire qu'on doit se complaire et se dire « c'est pas grave », mais telle est notre nature. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, nous dit l'apôtre Jean, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Alors, ce n'est pas une raison pour dire « ah ben, tout le monde pêche, je vais continuer à pêcher ». La grâce de Dieu va abonder sur abonder, c'est son travail de me pardonner, de m'excuser, de me rétablir. Non, le Seigneur nous protège, nous sommes plus obligés de pécher. Mais lorsque nous tombons dans le péché, il est prêt à nous relever, si nous lui demandons pardon, à nous laver du péché par son sang versé à la croix, et nous pouvons repartir. Nous pouvons repartir à zéro à tout moment. Alors bien sûr, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, aller demander pardon aux gens. Nous devons grandir, nous devons mûrir, nous devons progresser. Le temps moyen entre le péché doit augmenter. La durée qu'il nous faut pour nous demander pardon au Seigneur et aux autres doit diminuer. Et c'est là qu'on voit la vraie croissance. C'est pas en se sentant très spirituel, en ayant des extases, qu'on va être vraiment spirituel. Ces choses peuvent être valables et ces choses peuvent être la preuve ou accompagner une vraie maturité, une vraie croissance dans le Seigneur. Mais les autres vont être à même de savoir si vous grandissez dans le Seigneur, s'ils voient plus de Jésus en vous ou plus de vous en vous. C'était la prière de Jean-Baptiste, il voulait décroître pour que Christ puisse croître en lui. Je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un m'avait dit, j'espère que la prochaine fois que je te revois, c'était il y a des années, il y aura moins de Pierre en toi et plus de Christ en toi. Et j'ai dit, amen, je prie la même chose pour toi. Et ça, c'est une... Ça doit être un but dans notre vie, c'est de voir Christ grandir en nous. Mais cet apôtre Paul, il a simplement été un outil. Alors, on le critiquait beaucoup, c'est la lettre de Paul aux Corinthiens, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. En fait, il est même obligé de défendre son ministère, parce qu'il y avait des super apôtres, des télévangélistes de l'époque, qui venaient en disant, mais ce Paul, il n'a pas de lettre de recommandation. Il vous a déjà montré une lettre écrite par l'apôtre Pierre. Pierre, je connais, mais Paul, qui sait ? Puis regardez-le, apparemment, c'était un petit homme de petite stature. À l'époque, il était devenu chauve. Ça peut nous encourager, certains d'entre nous. Il avait les jambes cagneuses, d'après la tradition. Il avait apparemment une maladie des yeux qui rendait ses yeux un peu suppurants. Il n'était vraiment pas l'exemple du super télévangéliste bronzé qui fait de la musculation en salle, qui attire du monde par son look. Non, il avait apparemment, s'il était venu ici, on ne serait pas du tout impressionné. Par contre, ce qu'il dirait nous toucherait. Et sa déclamation, c'est la façon dont il annonçait la parole. Les gens se moquaient de lui, surtout ceux qu'il critiquait. Il disait qu'il n'avait pas de prestance, qu'il n'avait pas de technique oratoire. On parle par exemple d'un des collègues et des amis de Paul, Apollos, qui lui était un grand orateur, qui avait beaucoup de présence lorsqu'il parlait. Mais Paul, c'était l'inverse. C'était le dernier auquel on aurait dit il va remplir la salle, ou le chapiteau, ou le théâtre de verdure, ou Nicaïa, ou le palais des sports. Paul, il l'admettait, il a réalisé, en fait, il l'a dit dans 2 Corinthiens, que sa faiblesse était la force du Christ. C'est lorsque nous sommes faibles, nous sommes toujours faibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire que nous disons que nous sommes faibles? Ça veut dire que nous réalisons notre faiblesse, notre incapacité à faire quoi que ce soit de valeur éternelle. Lorsque nous reconnaissons cette faiblesse, alors le Seigneur peut manifester sa force à travers nous. Et c'est là qu'il est glorifié, parce qu'on dit, c'est pas moi qui ai pu faire ça, c'est le Seigneur. J'aimerais qu'on lise ensemble, c'est un peu long comme introduction, mais ça vous permet de situer ce que dit l'apôtre Paul, verset 14 du chapitre 15. Il s'adresse donc à ces Romains, et il leur dit, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonté, rempli de toute la connaissance et capable de vous avertir les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour vous réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'est fait par moi pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit Saint, ainsi depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'en Illyrie. On pense que c'est la Yougoslavie actuelle ou la Croatie. J'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Arrêtons-nous là. Être un outil entre les mains du Seigneur. Il ne prenait pas la gloire d'avoir accompli ce qu'il faisait pour lui-même. Il disait que c'était par la grâce de Dieu que ça avait été possible, que c'était par la puissance du Saint-Esprit qu'il avait rempli, qu'il avait pu être utilisé par Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette faveur que nous ne méritons pas. C'est cet amour que Dieu veut nous donner par Jésus-Christ, alors que nous ne le méritons aucunement. Même lorsque nous faisons des bonnes actions, la Bible nous dit que si nous grattons un peu, nous voyons qu'il y a des motifs qui sont impurs, des motifs, bien souvent des motifs égoïstes. Peut-être je fais la charité à cette personne qui est devant moi dans la rue, je lui donne quelque chose lorsqu'elle me lave les vitres de la voiture. si je ne mets pas en marche les essuie-glaces pour l'empêcher de le faire. Mais si je le fais, c'est peut-être parce que j'aurai meilleure conscience à aller au restaurant après, en pensant à cette personne qui n'a pas de quoi manger. Je vais peut-être être bon avec mes enfants lorsqu'il y a d'autres personnes de l'église, mais lorsque je suis seul avec eux, alors je vais me conduire sans merci, sans miséricorde, sans grâce, durement. Ça montre que, en fait, ma soi-disant générosité, elle est motivée par le désir de vouloir paraître. Encore une fois, il y a des choses que Dieu nous inspire qui peuvent être bonnes et belles, mais bien souvent, elles ne restent pas longtemps sans se polluer par notre nature de pécheur. Et si nous avons de bonnes motivations, quelquefois, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. La Bible dit dans la Genèse que Dieu nous a créés à son image. Le péché originel, lorsque le premier homme et la première femme ont désobéi à Dieu, a fait que cette image de Dieu a été bien abîmée, bien froissée en nous. Mais encore, elle est toujours là. C'est pour ça que nous avons soif. Nous retrouvons en nos cœurs, des fois, lorsque nous voulons plus, lorsque nous disons, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Est-ce que la vie, c'est simplement aller à l'école pour avoir un métier, pour essayer de battre le chômage, d'avoir une situation, d'avoir une famille, pour à son tour mourir, et puis recommencer? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que toutes les souffrances que nous endurons, c'est pour quelques mois de vacances, quelques semaines de vacances en pleine canicule, quelques joies, comme le disait Pagnol dans sa lettre, qu'en fait dans son roman, Le Château de ma mère, lui qui n'avait pas de foi en Dieu, qui disait qu'en fait la vie c'était bien triste, c'était quelques joies suivies de grandes douleurs et de grandes tristesses, de grands chagrins. Il parlait de la mort de ses parents. Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Dieu nous a donné cette soif de lui. Il a mis en nous le sentiment d'éternité, il est dit dans l'Ecclésiaste 3:10. Nous nous disons que la mort, ça peut pas être la fin, il y a quelque chose d'autre. Et Dieu, lorsqu'il nous interpelle, lorsque nous nous arrêtons pour l'écouter, lorsque nous venons à lui par Jésus-Christ, il pourrait nous emmener et nous faire quitter ce lieu de souffrance mélangée de quelques joies pour être avec lui, mais non, il nous laisse ici-bas parce qu'il veut accomplir un travail. Dieu est à l'œuvre. Il y a tant de choses à faire pour lui ici-bas. Il veut nous garder, mais pour cela, nous pouvons nous battre contre lui, laisser plein de choses venir entre sa volonté pour notre vie et nos propres projets. Mais encore une fois, la meilleure façon de vivre, je vous le garantis, c'est de suivre ses plans. Quel qu'il soit, ça ne veut pas dire nécessairement quitter votre travail actuel, ça ne veut pas nécessairement partir très loin du champ de mission où vous serez un pionnier, ça ne veut pas dire nécessairement être pasteur, assistant pasteur, ça veut dire simplement suivre ce qu'il vous demande de faire. Ça peut être un bon mécanicien, ça peut être un bon professeur, ça peut être une bonne mère de famille, ça peut être un bon vendeur de bateaux, ça peut être un bon missionnaire, ça peut être n'importe quoi. Si c'est de lui, il vous demande de vous rendre à sa volonté. Il y avait un grand évangéliste au siècle dernier aux États-Unis qui s'appelait D.L., ça c'était ses initiales, D.L. Moody, qui est connu encore aujourd'hui parce qu'il y a à Chicago, sa ville où il a servi le Seigneur, il y a ce qu'on appelle l'Institut de Moody. Il y a encore aujourd'hui des programmes, des chaînes de télévision qui sont géré depuis cette école biblique, ce centre Moody qui rayonne dans le monde entier. On estime qu'il a touché plus de 100 millions de personnes par son influence. Et pourtant, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'éducation. Mais il avait un grand cœur pour le Christ. Et un jour, il a entendu un homme, un autre évangéliste, qui lui a dit: le monde n'a pas encore vu ce que Dieu fera avec, pour, au travers et dans un homme qui lui soit complètement consacré. Le monde n'a jamais vu ce que Dieu peut faire avec un homme qui se donne à lui à 100%. Et dans l'histoire, la biographie de cet homme, il est dit qu'en fait, lorsqu'il a entendu ces paroles, il est allé à l'époque écouter le prince des prédicateurs, le pasteur anglais Spurgeon, qui entre parenthèses aimait bien notre région, il venait tous les années à Menton pour se ressourcer. Et écouter Spurgeon, c'était un peu comme écouter l'apôtre Paul, quoi. Des prédicateurs de leur calibre, il y en a quelques-uns tous les siècles. Mais il dit qu'il ne pouvait pas écouter le sermon de Spurgeon. Il se disait qu'en fait, Spurgeon, c'était pas lui qui parlait, c'était Dieu qui parlait au travers de Spurgeon. Et il avait ces paroles qui résonnaient en lui: Dieu n'a pas encore vu ce que Dieu pourra faire avec un homme qui lui soit consacré à 100%. Et là, dans cette salle où il entendait le message de Spurgeon, il s'est dit: Seigneur, avec ton aide, je veux être un homme comme ça. Et ça a été le départ de son ministère, le départ de son influence, le départ du rayonnement de son ministère. Mais c'était pas lui, c'était Dieu qui agissait au travers de lui. Paul commence toujours avec beaucoup de tact. Lui qui avait été quelqu'un de très brutal, ça aussi c'est un signe de maturité, d'avoir de l'amour, de la compassion, de la façon dont on reprend les gens. Paul nous invite dans l'épître de Paul aux Galates, lorsqu'on voit un frère qui tombe dans le péché, de le reprendre, mais avec douceur, parce que nous-mêmes, on pourrait aussi tomber dans ce travers, dans ce péché. Et là, comme il l'avait fait au tout début, vous vous souvenez, au premier chapitre, il disait, en s'adressant aux Romains, pour établir un contact, il leur disait: on parle de votre foi dans le monde entier, de l'époque, c'est-à-dire l'Empire romain. On disait, les chrétiens de Rome, il y a un groupe là-bas, ils sont pleins de zèle, ils sont vraiment à fond pour le Seigneur, comme on dit aujourd'hui. Et là, il leur dit: je suis persuadé que vous êtes plein de bonté, plein de compassion. Il avait entendu dire, il leur dit: je sais que vous êtes remplis de bonté, vous êtes remplis de toute la connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Remplis de toute la connaissance, on dit, mais attendez, c'est pas possible ça. Si nous sommes chrétiens, la parole nous dit que Christ est en nous, et Colossiens nous dit qu'en Christ cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ils étaient aussi capables de s'avertir les uns les autres. Ça ne veut pas dire attention si tu fais ça, non, ça voulait dire: je crois que là, ta réaction n'est pas bonne. Tu vois, dans la parole, il est dit aimez, accueillez les autres, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Accueillez, faites ceci, montrez de l'amour, ne vous disputez pas, n'allez pas porter vos différends devant les tribunaux civils. Ils avaient acquis de la connaissance biblique, mais ils étaient capables de se conseiller les uns les autres. Et ça, c'est une grande partie de la vie chrétienne. La vie est dure, nous subissons des épreuves, nous avons besoin d'être entourés de frères et sœurs qui sont prêts à nous dire: attention, ce que tu fais n'est pas bien, ou la façon dont tu l'as fait, regarde dans la parole, il est dit de ne pas faire cela, ou il est dit au contraire, ce que tu fais est bien. Mais être capable de se conseiller, aujourd'hui, les conseillers sont légion. Il suffit de regarder les annuaires téléphoniques et il y a des conseillers en tout. Il y a des conseillers conjugaux, des conseillers en vente, il y a des conseillers en informatique, des conseillers financiers. Le conseil se porte bien. Lorsque les gens ne savent pas quoi faire, lorsqu'ils ont été licenciés de leur travail, ils s'installent comme consultants. Si je suis trop vieux pour rester à Microsoft et que je me retrouve sur le carreau, j'ouvre un cabinet de conseil. Et j'ai encore des bonnes choses à apprendre, mais les conseillers, il y en a légion, et surtout en ce qui concerne la psychologie, les conseillers psychologie, les psychologues, les thérapeutes. On dit mon psy. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont un psy. Alors c'est vrai qu'il y a des situations où on a peut-être besoin d'un suivi très, très profond, très peut-être médicalisé. Si on pique une déprime, qu'on n'arrive plus à dormir, qu'on n'arrive plus à bouger, à ce moment-là, des recours à la psychologie médicale peut être valable. Mais depuis qu'il y a des psychologues, on n'a jamais eu tant de problèmes. Où les gens se sont demandé s'ils n'avaient pas tel ou tel problème. Si on a des problèmes dans notre relation, on va examiner notre vie familiale. Et on dit, ah, mais c'est forcé, je suis né en quatrième position. Et il y a eu des études psychologiques qui montrent que le quatrième, il va avoir ça, ça et ça. Par contre, mon frère qui est né en premier, alors lui, il est comme ça parce que... Alors il y a le conseil en psychologie et puis le conseil du zodiaque, l'astrologie. La Bible dit que c'est une horreur à l'Éternel de chercher à savoir quel est le futur en regardant les astres, et c'est une abomination devant l'Éternel. Parce que ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à Dieu, on fait confiance à des astrologues, à des choses que Dieu a peut-être contrôlées mais qu'il ne désire pas que nous connaissions. Paul, il leur dit, je sais que vous êtes à même de vous encourager. Et ça, c'est important dans une église. Et je suis vraiment béni lorsque je vois que vous vous retrouvez en dehors peut-être des réunions habituelles, ou même pendant les réunions habituelles, que vous priez les uns pour les autres, que vous vous encouragez, que vous montrez un verset pour encourager l'un l'autre. Et ça, c'est un signe aussi de maturité. Et ça doit se faire toujours basé sur la parole de Dieu, non pas sur les écrits de Freud, de Carl Jung, qui ont fait peut-être des découvertes intéressantes, mais qui n'ont... Lorsqu'on commence un conseil, une analyse psychologique, en principe, c'est fait pour durer. J'ai jamais encore rencontré aux États-Unis quelqu'un qui ait commencé une analyse, qui dit, ça y est, au bout de 3 semaines, j'étais guéri, au bout de 3 ans, j'étais guéri. Non, des personnes connues comme Woody Allen, ils ont des psys pour la vie. Pourquoi ? Parce qu'ils se basent sur la sagesse des hommes pour traiter des problèmes qui sont du domaine de Dieu. Nous avons, la Bible nous dit dans Ésaïe 9,6 que Dieu, Jésus, est le grand conseiller, merveilleux conseiller, fils de Dieu. Le prophète Ésaïe disait dans Ésaïe 50, d'abord citer le psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. C'est la parole de Dieu appliquée dans notre vie, reçue, qui est à qui nous laissons la possibilité de nous transformer, qui nous guérit. Dans Ésaïe 50, je crois, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que je l'écoute à la manière des disciples. On voit que là, nous sommes encouragés à cultiver notre culte personnel, notre relation avec Dieu, par la lecture de sa parole, par la prière, la méditation de la parole, pas seulement pour passer un moment formidable, mais pour être à même d'encourager les autres, pour être équipé pour encourager ceux qui sont fatigués, pour les soutenir. Jésus disait dans Jean 14, 32, Jean 11, 42, savez ce que je veux dire. Jean. J'ai perdu l'adresse, vous la connaissez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est aisé et je suis humble de cœur. Mon fardeau est léger et mon joug est facile. Matthieu 11, pas Jean. Ça, c'est un verset que vous pouvez apprendre par cœur. Matthieu 11, 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. C'est en venant à Dieu, c'est en utilisant sa parole que nous pouvons nous encourager les uns les autres. Alors Paul leur dit, je sais toutes ces bonnes choses sur vous. Et il dit cependant à certains égards, verset 15, je vous écris avec une sorte de hardiesse comme pour éveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Il leur dit, j'ai peut-être été un peu dur avec vous, mais ce n'était pas parce que vous ne savez pas ces choses, c'est simplement parce que je voulais vous les rappeler. Paul était un grand diplomate. Et lorsque nous parlons avec les autres aussi, nous devons pas chercher à heurter, à faire du mal, à reprendre méchamment, toujours avec douceur. Et là, il leur dit, je sais que toute cette... Ils sont en haut, si tu veux. Toute cette... cette aide que vous pouvez avoir par le salut dans la foi, toutes ces choses-là, vous les savez. Vous savez que vous êtes des pécheurs, que vous êtes seulement sauvés par le salut en Jésus-Christ, sauvés par la foi, que vous êtes justifiés, et qu'après ça, Dieu... Je sais que vous savez tout ça. Et nous pouvons remercier qu'il l'a répété, parce que maintenant, nous ne l'avons pas réécrit, nous le savons aussi. Mais il leur dit, il y a des choses que vous avez un peu oubliées. Il faut que je vous rappelle certaines choses. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre. Et c'est pour ça que nous nous réunissons. Ce n'est pas parce que nous aimons être en réunion que nous faisons des réunions bibliques, des réunions de culte le dimanche, des réunions de prière. C'est parce que nous sommes tellement tiraillés, attirés par le monde. Nous pouvons écouter, si nous passons 5 minutes par jour avec le Seigneur, une petite prière, ce serait déjà bien pour certains. Si nous considérons que nous avons une vie éveillée de 8 heures, c'est 0,5% de notre temps que nous consacrerons à Dieu. Pas étonnant que nous ne l'entendions pas très bien. Si vous n'écoutez que quelque chose que 1,200%, un 0,5% du temps, vous n'allez pas l'écouter beaucoup. Et nous avons besoin que l'on nous rappelle. L'apôtre Pierre, c'est quelque chose qu'il répétait aussi fréquemment. Deux Pierre 1,12. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente, parlant de son corps qui se détériorait physiquement, de vous tenir en éveil par mes rappels. Plus loin, dans même lettre, au chapitre 3, verset 12, ou non, pardon, verset 1 et 2, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je vais faire appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Paul dans 1 Timothée, ça c'est une des dernières lettres de Paul, 1 Timothée 4, 6, il encourageait son protégé Timothée, un jeune pasteur timide, page 238 dans la Bible à la Colombe, 1 Timothée 4, 6, en exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Toujours besoin de nous rappeler. Et il y a un auteur que j'aime bien citer, Ray Stedman, qui dit que pour lui, en fait, la preuve de notre chute au péché originel, la chute de l'homme, c'est que nous avons tellement de facilité à nous rappeler ce que nous devrions oublier et nous avons tellement de mal à nous rappeler, à oublier ce que nous devrions. Je reprends. J'ai oublié ce dont je devrais me souvenir. Nous avons tellement de mal à oublier ce que nous devrions nous souvenir, ce dont nous devrions nous souvenir, et nous nous souvenons ce que nous devrions oublier. Enfin, vous avez compris. Non, on se rappelle de ce qu'on devrait oublier, on oublie ce que l'on devrait se rappeler. Voilà. Et ça, pour cet auteur, c'était la preuve vraiment notre intelligence, elle en a pris un sacré coup. J'en suis la preuve vivante ce matin. Paul, encore une fois, il dit que c'est par la grâce que Dieu lui a fait d'être serviteur de Christ Jésus pour les païens, pour les non-juifs. Il dit au verset 16 qu'il s'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu afin que des païens lui soient une offrande agréable sanctifiée par l'Esprit Saint. Il utilise des termes de liturgie. Le terme d'être ministre du Christ, c'est le mot grec liturgos, dont nous tirons le mot liturgie, c'est-à-dire le déroulement de cérémonies religieuses. Il parle de sacrifice sacré, du service sacré, et de sacrifice qui soit agréable, agréé, accepté par Dieu. Il utilise le terme des termes du langage des prêtres de l'Ancien Testament, et à la base, un prêtre, c'est justement quelqu'un qui fait deux choses. Un prêtre sert le Seigneur en le louant, en chantant sa gloire, en étudiant sa parole, en méditant sa parole, il offre quelque chose à Dieu. Et un prêtre est aussi au service du peuple pour le Seigneur. Il est comme un intermédiaire, mais nous savons que maintenant le seul intermédiaire réel entre les hommes et Dieu, c'est le seul médiateur, c'est l'homme Dieu, Christ Jésus. Il est dit dans une des lettres de Paul à Timothée. Ce sont deux fonctions sacrées d'aller vers Dieu et d'amener Dieu vers les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul dit qu'en fait, nous sommes tous des prêtres. Si nous sommes chrétiens, nous sommes une race de royale de prêtres. Apocalypse 1:7. Nous aussi, nous devons avoir une communion avec le Seigneur et nous devons amener les gens à lui et l'amener à eux. Nous avons ce double rôle d'être des ambassadeurs. Vous vous souvenez de Paul dans 1 Corinthiens 15. Nous devons être disponibles pour être des outils, encore une fois, entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il y a un outil meilleur que les autres? Souvent, on se dit qu'une machine, une perceuse électronique à percussion, ça vaut plus qu'un marteau ou qu'un tournevis. C'est vrai qu'au niveau du coût, Paul en sait quelque chose, ça coûtera peut-être beaucoup plus cher. Mais encore une fois, l'outil le meilleur, c'est l'outil qui est adapté aux besoins. Si l'artisan a besoin de visser une vis, cette perceuse à percussion électronique avec variateur incorporé et manche galbée ne lui servira de rien. Le tout, c'est d'être le bon instrument au bon moment. Et ce qui est merveilleux, c'est que quelle que soit notre capacité, Dieu peut dire « j'ai besoin maintenant d'un outil qui pourrait faire ceci ». Peut-être qu'il pourrait s'occuper des bébés dimanche prochain, qui pourrait faire de la louange avec les enfants, qui pourrait donner un coup de balai le dimanche matin pour s'engager à le faire. Peu importe la tâche, ce qui compte, c'est d'être entre ses mains au bon moment. En ce moment, comme on a pas mal de travaux ici, j'ai amené des outils personnels à l'église Il se trouve des fois que j'ai du travail à faire à la maison et je vais pour chercher la pince coupante et je réalise qu'il faut aller la chercher à Magnan ou à Aimé Martin. Cet outil est parfaitement l'outil dont j'ai besoin, mais il n'est pas sous la main. Est-ce que vous êtes sous la main du Seigneur? Est-ce que vous dites, je suis sous ta main, Seigneur, pour être utilisé maintenant? Encore une fois, on a la fausse conception qu'il faut faire des longues études bibliques, il faut savoir parler le grec, l'hébreu, pour commencer à faire des études bibliques, à diriger des études bibliques. C'est faux. Avec ce que vous savez, juste parce que vous êtes là depuis des semaines et des semaines et des mois, vous en savez beaucoup plus que certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler du sacrifice de Christ pour votre salut. Vous êtes à même de servir le Seigneur dans ce domaine. Peut-être que ce ne sera pas ça. Il n'y a pas besoin d'être un grand guitariste pour venir chanter, peut-être dans la louange. Peut-être que vous avez une belle voix. Peut-être que vous pourriez joindre l'équipe de louange. Peut-être que vous avez un bon sens du rythme. Peut-être que vous pourriez peut-être frapper un peu un djembé pour qu'on chante tous en même temps. Être disponible. Souvent, on pense qu'il faut avoir des grandes capacités. Ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas la capacité, c'est la disponibilité. Parce que lorsqu'on est disponible, lui se charge de nous équiper, il se charge de nous former. Peut-être que ça ne sera pas très bien pendant un temps, mais peu importe, il voit plus loin que le bout de notre nez. Des fois, il va peut-être commencer une étude biblique parce qu'il sait que dans 15 ans ou dans 2 ans, il veut que vous implantiez une église au Luxembourg, au Burkina, en Algérie. Et vous dites, jamais je pourrais. Ce qui est formidable, c'est que lorsque les outils sont utilisé par le maître, dans la boîte à outils, ça devient contagieux. Ils se disent, hey, t'as vu ce qu'il m'a fait faire? Tu as vu ce mur, comment il est bien droit? Et il y a l'autre qui dit, ouais, tu as vu comment moi j'ai pu réparer cet interrupteur en deux coups de tournevis, hein, en deux coups de moins, il a réparé le problème. Et si nous avons cette vision des choses, si nous sommes disponibles, si nous sommes prêts à être utilisés par le Seigneur, alors le ciel est la limite. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire avec nous. Surtout si nous sommes humbles et nous réalisons que ce n'est pas parce que, Pierre, j'ai des grandes qualités oratoires que je me trouve ici en train de vous parler. Si je pense ça, ça y est, je suis fini, il va me mettre sur l'étagère dans la réserve. Si je reconnais que c'est malgré moi qu'il peut vous toucher par sa parole, vous interpeller pour vous appeler à son service, et je dis gloire à Dieu, vous me dites c'était bien, je dis non, merci, c'est lui qui a voulu vous toucher, à ce moment-là, il peut continuer à m'utiliser. Si on est entre outils et qu'on se raconte des histoires d'anciens outils utilisés par Dieu, on va susciter parmi les jeunes outils des vocations. Je viens d'une église, Calvary Chapel, à Seattle, où il y avait cette saine émulation. Premier missionnaire, c'était quelqu'un qui est parti aux Philippines et qu'on n'avait jamais vu, mais qu'on connaissait parce que son nom figurait dans le bulletin hebdomadaire de l'église. Il fallait prier pour Roger Scalise, qui était aux Philippines. On priait pour Roger Scalise, on ne le connaissait pas. Et puis après ça, il y a eu Dan et Christine Bouchy qui sont partis avec YWAM, Jeunesse en Mission, au Népal. Et puis après, il y a eu Nick Long, qui avait un fardeau pour l'Allemagne. Il est parti à Siegen. Maintenant, il a une église, ils sont en train de construire le nouveau sanctuaire qui va pouvoir recevoir 1600 personnes. Il a 800 personnes, ils feront deux services. Dan Bouchy est maintenant responsable de Jeunesse en Mission pour l'Inde et le Népal. Roger Scalise a implanté des dizaines d'églises aux Philippines. sur des bidonvilles, sur des tas d'ordures, il y a des missionnaires qui ont suivi l'exemple de Roger Scalis. Nous avons de très bons amis qui sont missionnaires, qui traduisent la Bible en amno tibétain, en Chine, en Tibet, au Tibet, en Chine. Il y en a qui sont partis au Guatemala, au Mexique, à Tonga, dans les mers du Sud, à Smolensk, Novosibirsk, Perm, en Russie, à Leipzig, au Niger, au Burkina, à Saint-Pétersbourg, à Nice. Maintenant, il y a Paris avec Mike et Becky. Il y a Rob et Johnny, que certains connaissent, qui sont à Londres. Il y a près de 70 personnes qui sont missionnaires. Et tout ça parce que c'est pas des gens formidables, c'est pas parce qu'à Calvary on était fellowship à Seattle, on était la crème de la crème. Non, parce qu'il y avait un désir de servir Dieu, de réaliser que de travailler toute sa vie pour vivoter une retraite avec plein de jouets, c'était pas ça le but du jeu. D'accumuler des richesses ici-bas, c'est vraiment avoir une vue à court terme. Mais qu'il y a quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau. Et encore une fois, tout ce qui se compte, c'est de se dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux, mais je veux être entre tes mains un outil qui t'obéit. Quand j'ai décidé de partir pour quitter mon métier d'informaticien, je disais au Seigneur, arrête-moi si ce n'est pas ce que tu veux pour moi. Je pensais abandonner la sécurité de l'emploi, m'aventurer, que c'était vraiment imprudent. Je peux vous dire que le Seigneur a été plus que fidèle. Il a été plus fidèle que Pacific Northwest Bell, la compagnie des téléphones où je travaillais, qui était devenue US West, maintenant qui est devenue Comwest ou Quest. Je crois qu'ils sont en faillite. J'ai des copains, 2 ans après, ils avaient perdu leur emploi là-bas. Encore une fois, je vous dis pas que nous sommes tous appelés à partir de l'autre côté, mais ici même, nous pouvons être utilisés. Et Paul, il voulait présenter une offrande sainte et agréable à l'Éternel. Paul, c'est curieux, il y en a certains qui ont remarqué qu'il y a des passages dans la Bible où il est dit qu'il est un peu comme celui qui, comme le garçon d'honneur qui présente l'Église sans tache à Jésus, l'époux de l'Église. Il y a un autre passage, j'ai la note là, mais je l'ai perdue, où il est, de la même façon, il parle d'être celui qui présente comme une épouse chaste et pure l'Église à Dieu.